session de philosophie argument par le père Marie-Dominique Philippe sur la personne humaine.
Le 12 mars 1994.
Cette expérience, je dis bien cette expérience, nous avons l'expérience de notre je suis, avec toute la profondeur de l'analyse de la philosophie première et de toute la philosophie. C'est ça qui est assez extraordinaire. Toutes les analyses philosophiques me permettent de découvrir ce qu'il y a de tout à fait original dans mon je suis. Alors, forcément, je ne peux pas aller trop longuement et insister trop, mais vous pouvez, même si de fait, au point de vue philosophique, hein, parmi vous, il y en a qui n'ont pas fait beaucoup, vous pouvez découvrir au moins par là l'intérêt du regard philosophique, qui est en définitive connaître l'être de la personne, l'être de ma personne. Mais au fond, c'est la philosophie, c'est pour me connaître. Voyez la parole de Socrate, connais-toi toi-même. C'est pas du tout égoïste, parce que en me connaissant, je connaîtrai mieux l'autre, celui qui dit aussi je suis, et je pourrai apprendre à l'autre à se connaître. Et voyez, c'est parce que la philosophie a abdiqué ce point de vue de l'être que la psychologie a pris une telle place. C'est très curieux. Parce que en réalité, s'il y a cette connaissance du je suis, tel que saint Thomas devait l'avoir, c'est très rare que saint Thomas dise ça, il dit quand même de temps en temps, ego dico. C'est rare qu'il dise ça, moi je dis. Mais quand saint Thomas dit moi je dis, c'est la connaissance en je suis. Et ceci, c'est par rapport à quelque chose de profond. Par rapport à l'air, dit ça, par exemple. Alors, je vais énumérer avec vous toutes les dimensions, toutes les expériences, le caractère des diverses expériences du je suis. Premièrement, l'autonomie. L'autonomie radicale dans mon être. Aucun être vivant, aucune autre personne ne peut m'enlever cette autonomie. Cette autonomie dans mon être. Je n'ai pas encore philosophiquement découvert l'existence de l'être premier. Je peux dire que quand je dis je suis, aucun être vivant, même pas mes parents. C'est très curieux de voir que le jeune garçon ou la jeune fille, ça peut arriver à un âge, s'oppose à la dépendance à l'égard des parents. S'ils avaient fait un peu de philosophie, ils comprendraient que leur indépendance, c'est dans le « je suis ». Et c'est une indépendance qui est toute paisible. C'est pas dans la lutte. On m'a rapporté, j'aime cette histoire parce qu'elle est tellement typique de notre monde d'aujourd'hui. Une famille chrétienne, modèle, le père est médecin, étonnant. effrayant. C'est effrayant. Alors j'ai revu la mère 2 ans après. Je me demandais si elle était sortie de ce prison. Alors elle m'a dit, c'est un peu plus calme. Découvrir son autonomie radicale, c'est très possible. Et c'est très grand. Vous voyez, ça fait tout de suite poser au fond une question. Et cette autonomie est-elle absolue? Elle est radicale, est-elle absolue? Oui. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que découvrant l'être de la personne, je vois que cette expérience que je fais de mon je suis va tout de suite me poser la question, mais est-ce que je suis l'absolu? Et pour répondre, il faudrait savoir s'il existe un être au-dessus de moi. Voyez, le problème de l'existence d'un être premier, d'un créateur, se pose immédiatement dès que je pose l'être de la personne. Et ça, c'est impressionnant. Je dis impressionnant dans le grand sens philosophique. Se poser vraiment la question de notre autonomie et de notre autonomie limitée. Je suis autonome en raison de ma substance. Vous voyez, et dans le je suis, j'ai une certaine expérience de ma substance par mon autonomie. C'est ça l'importance, vous voyez, de ce retour vers la personne, c'est que la métaphysique prend un caractère beaucoup plus concret. La substance, je la saisis comme principe, c'est loin. Je la saisis, mais là, je la saisis dans son effet direct. Le propre de la substance, c'est de subsister. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'exister par elle-même. J'existe par moi. Par moi, c'est-à-dire par aucun autre être qui sont autour de moi. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai une autonomie radicale. C'est pas Hitler qui m'a donné l'existence. Je prends Hitler comme exemple de tyran. Ce n'est pas le tyran qui m'a donné l'existence. À un moment donné, on avait mis Génération Mitterrand. Eh bien, philosophiquement, c'est impossible. Alors quand on voit ça, on rit un peu, hein. On a un petit peu l'humour, oui, oui, allez, vas-y, tu me gonfles. Parce qu'on a l'autonomie radicale dans notre être. C'est pas le président de la République, fut-il Louis XIV. Mais Louis XIV ne l'aurait pas dit. C'est là toute la différence. On a essayé. Et là, on se gonfle. Dans l'ordre de l'être, on a une autonomie limitée, c'est sûr. Je respecte l'autonomie de mon voisin. Ça ne me gêne pas du reste qu'il soit autonome dans son être. Tout à fait différent. Il peut mourir, je ne mourrai pas en même temps, puisque je suis autonome. Il vous dit, ce qui est très important, c'est de comprendre cette expérience de la profondeur de mon être. Parce que là, je saisis la substance comme source. Source de toute détermination. Une source. L'expérience d'une source, la source de mon être. C'est quand même très impressionnant. Parce que je n'en saisis pas la limite. On pourrait dire le puits est profond. C'est vrai. Mon exister, je n'en saisis pas la profondeur. Je sais que mon exister est limitée. me détermine. Aucun être, ni l'art médical peut modifier certaines choses. C'est vrai. L'art médical peut modifier certaines choses et de temps en temps faire des opérations chirurgicales assez profondes et assez radicales. Ça ne touche pas mon être. Mon être est au-dessus de toutes les transformations possibles, de toutes les influences possibles. Vous voyez, quand Claudel disait, j'ai entendu à Fribourg quand il était passé, parce qu'il aimait beaucoup la vue journée. Alors quand Claudel disait, je n'ai subi aucune influence, là aussi on sourit. Il n'a subi aucune influence. Quant à son être, au « je suis » de Claudel, qui était bien placé, enfin, quand il disait « je suis », c'est vrai, mais en tant que poète, ah, pas du tout, là il a subi des influences. Il a subi des influences tellement profondes qu'il ne s'en aperçoit même pas. Dire qu'on n'a subi aucune influence, mais écoutez, c'est quoi ? C'est croire que dans son esprit, comme nous allons le voir, on est indépendant, mais pas du tout. Dans son esprit, on n'est pas indépendant. Dans son être, donc je suis. Donc là, je vous dis, il y a quelque chose d'extrêmement important pour saisir concrètement ce qu'est la substance. Alors, une fois qu'on a cette expérience et qu'on revient à l'induction de la substance, on voit qu'on cherche quelque chose qui est toujours en liaison avec le jugement d'existence. Je suis. Et que, même si c'est un principe dans l'ordre de l'être. Et donc c'est un principe qui est source d'exister, puisque la substance subsiste. Donc, je n'insiste pas plus, mais ce serait intéressant de décrire dans l'ordre métaphysique le je suis. Deuxième dimension de la personne. Je parle de la personne telle que nous sommes. Parce que quand vous regardez un enfant dans son berceau, vous ne dites pas « Oh, quelle admirable personne !» Non. Métaphysiquement, il est une personne. Si l'enfant pouvait dire « Je suis !» Quand un perroquet dit « Je suis !» ça n'a pas du tout la même signification. Il répète sans rien savoir. Tandis que quand je dis je suis, l'enfant ne dit pas je suis. Je ne sais pas à quel âge un enfant dit je suis. Quelle est la première fois que vous avez dit je suis ? C'est la question que j'ai posée à un psychanalyste. Il m'a dit qu'il ne savait pas. Il m'a dit, il faut mieux dire ça. Quand vous avez dit la première fois je suis, vous avez pris conscience de votre exister dans son absolu. Indépendant des autres. Deuxième dimension. Le désir de la vérité. Ou si vous voulez, recherche de la vérité. Je suis implique le cogito. Je renverse des cartes, je dis je suis, je pense. Vous pensez, et en tant que personne, quand vous dites je pense, personnellement, je pense touche quelque chose qui est aussi très radical en vous. Je pense. Et ma pensée de moi je suis implique, quand elle est profonde, la recherche de métaphysique que la vérité était la seconde matière de l'acte. Et comme la personne humaine, en existant, en pensant, et la réalité la plus parfaite que j'expérimente, c'est quand je pense moi-même et quand je pense à ce qu'il y a de plus parfait, rechercher la vérité. C'est que je suis là aussi en face d'une dimension absolue et unique. Tant que je n'ai pas découvert mon je suis pensant, et pensant de la manière la plus absolue qui soit, c'est-à-dire recherchant la vérité, il y a quelque chose d'infini dans ma pensée. Je ne suis pas limité. Je peux toujours penser plus. C'est ça qui est merveilleux en philosophie, vous voyez. Je ne peux jamais dire, et ça va vous faire plaisir, je ne peux jamais dire, maintenant je m'arrête en philosophie. J'ai tout compris. Plus on avance en philosophie, plus on dit qu'on sait qu'on peut aller beaucoup plus loin. Parce qu'on touche dans le je suis pensant une source infinie. Et je dis bien, ce n'est pas n'importe quelle recherche de la vérité qui fait partie de ma personne. Parce que vous pourriez vous poser la question pour un matheux, est-ce que son habitus mathématique fait partie de sa personne? Ah, ça, pas commode. Nous avons tous connu des mathématiciens éminents, ou un savant éminent. Est-ce que sa recherche mathématique fait partie de son je suis personnel? Souligne, c'est la recherche de la vérité. Parce que ce n'est pas telle vérité, c'est la vérité. C'est-à-dire la vérité dans ce qu'elle a de plus profond, de plus radical, qui fait partie de la personne. L'esprit ne se développe radicalement que dans une recherche de la vérité. Telle vérité, la vérité mathématique, la vérité biologique, la vérité psychologique, c'est très bien, mais ce n'est pas ça qui forme la personnalité. Ce n'est pas ça qui est une des dimensions de mon je suis. Ça peut aider. Ça peut contribuer, mais ce n'est pas une dimension propre de mon je suis. Le je suis implique la profondeur de l'esprit. Et mon esprit ne se développe lui-même comme esprit que dans cette recherche de la vérité au sens le plus fort. C'est-à-dire ma conformité avec la réalité existante. Et la réalité existante que je peux expérimenter tout de suite, c'est moi. Donc c'est mon je suis, pensant à ce que je suis. Vous voyez, cette chose très curieuse qu'Aristote découvre, et que Hegel reprend et qu'il commence son encyclopédie par là. La dernière parole d'Aristote, tu vois, une des dernières paroles d'Aristote sur Dieu. Il dit Dieu, c'est la connaissance de la connaissance. Mais bien que Aristote n'est pas du tout, comme on dit toujours, Aristote est resté au premier moteur, mais non, c'est pas ça du tout. Ça c'est en physique et c'est négatif. En réalité, ce que dit Aristote sur Dieu, c'est qu'il est l'acte pur. Il est la connaissance, la contemplation de la contemplation. Parce que Dieu ne peut que se contempler. La connaissance de Dieu, elle est parfaite. C'est Dieu qui se connaît. Alors voyez, le cogit, le je suis, quand il est dans la dimension de l'esprit, implique que je suis pour moi-même lucide. Mon je suis peut devenir limpide, je le connais. Je le connais. Et je connais que mon je suis pensant n'a pas de limite. Il recherche la vérité. Et doit aller toujours plus loin dans la vérité. Et c'est pour ça que cette recherche de la vérité, elle aussi, va dire, y a-t-il une réalité plus parfaite que mon je suis? Si vraiment je recherche la vérité, je dois comprendre que la connaissance que j'ai de moi en profondeur est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant. Puisque j'ai l'autonomie dans l'ordre de l'être. Puisque ma personne est unique dans l'ordre de l'être. Donc c'est très important, connais-toi toi-même. Et Socrate dit ça, qui est au point de départ justement de la philosophie face aux sophistes. Les sophistes, c'est ceux qui tombent dans la rhétorique. C'est ceux qui pensent métaphoriquement. Face aux sophistes, connais-toi toi-même. La recherche de la vérité par rapport à mon je suis. Et la recherche de la vérité par rapport à mon je suis me met en présence de la connaissance la plus parfaite de tout ce que je connais immédiatement, de tout ce dont j'ai l'expérience. Et alors à partir de là se pose la question, est-ce que mon je suis est l'ultime vérité? Vous voyez, seconde question. À partir de la personne humaine, à partir de l'expérience que j'ai de moi-même directement. La connaissance de soi, c'est quelque chose de très grand. C'est comme un palier, un haut. Je crois qu'on pourrait dire un haut plateau, ça peut être l'image du haut plateau, la connaissance de soi, la connaissance de notre je suis. Dans son autonomie radicale, dans sa limite. Et relativement aux autres, il y a quelque chose de particulier. Quatrième dimension, troisième dimension. Capacité d'aimer. Je suis capable d'aimer. J'aime. Alors ici, qu'est-ce qui est le plus grand? Quelle est l'expérience la plus grande que vous avez du je suis aimant? Dans votre je suis aimant, quelle est l'expérience la plus grande? C'est d'aimer l'ami. grande expérience que vous avez du je suis, pensant et capable d'aimer. Vous voyez, ce n'est plus m'aimer qui est le plus grand. Me connaître, c'est ce qu'il y a de plus grand. Me connaître dans toutes les réalités que je connais immédiatement. Soulignez ça. Dans toutes les réalités que j'expérimente immédiatement. La réalité la plus parfaite que vous connaissez, c'est vous. Vous, en profondeur, dans votre être. Tandis que pour aimer, c'est pas vrai. C'est aimer l'autre. L'expérience que vous avez de votre bonté n'est pas la plus grande expérience que vous avez du bien. La plus grande expérience que vous avez du bien, c'est lorsque vous choisissez un ami. Je te choisis comme ami. Et voyez, c'est ça qui est très très beau, c'est de voir que l'esprit a comme deux grands développements dans le je suis. Le développement de la vérité, alors là, c'est dans l'immanence. Et le développement dans l'amour, c'est dans l'extase. L'amour est extasie, implique l'extase. Il implique la sortie de soi. De sorte que la plus grande expérience que j'ai dans mon je suis, au point de vue de l'esprit, au point de vue de l'amour, c'est l'autre. Mais l'autre, c'est pas n'importe quel autre. C'est l'ami. Parce que c'est l'ami seul que je peux aimer vraiment. Celui que j'aime et qui m'aime. Et donc je l'aime non pas parce qu'il m'aime, je l'aime parce que c'est lui, mais parce qu'il m'aime, je peux l'atteindre immédiatement. Et donc je suis en face d'une connaissance expérimentale intérieure et en même temps extérieure, puisque j'expérimente l'ami. Et l'ami, c'est un autre moi-même. L'ami, ce n'est pas moi. C'est quelqu'un qui, selon dans son esprit, dans son choix, m'aime et me choisit. C'est la troisième dimension du je suis. Ben nous pouvons tous faire cette expérience. Et c'est important parce que notre personne humaine, notre je suis, n'est parfait que lorsque nous aimons. Quelqu'un qui refuse d'aimer, mutile sa personne. Objectivement, dans ce qu'il a de plus que lui-même, son esprit ne peut pas atteindre toute sa dimension. C'est comme quelqu'un qui refuse de chercher la vérité, mutile sa personne. Il n'est plus une personne humaine, je regrette. S'il n'est plus une personne humaine. Quelqu'un qui dit je refuse de chercher la vérité, je n'ai pas besoin de chercher la vérité, bien il n'est plus une personne. Son esprit est mutilé, il s'arrête. Celui au contraire qui vraiment met toute l'ardeur de son je suis et toute la force de son autonomie dans la recherche de la vérité, il développe ce qu'il y a de plus profond en lui. Oui, le je suis pour l'homme, pour moi, n'est parfait que dans mon esprit. C'est mon esprit qui se développe dans la recherche de la vérité. Et c'est mon esprit niveau d'amitié. Je vais vers lui et je le reçois. Cette expérience de l'ami, un autre moi-même. ça, c'est très important. Vous n'avez qu'à prendre le petit exemple très très simple. Dès qu'on est fatigué, ça se ressent immédiatement dans la capacité qu'on a d'aimer. Dès qu'on est fatigué, ça, c'est sûr. Alors, le mari arrive le soir très tard après avoir travaillé toute la journée. Et non seulement il a travaillé toute la journée, mais dans son travail, il y a eu des moments très difficiles, des échecs. Et un homme a toujours un tout petit peu quand même. Un peu d'honneur, il n'aime pas beaucoup de dire les échecs qu'il a. Une femme les dit beaucoup plus facilement. Tandis qu'un homme, toujours beaucoup plus difficile. Il a une petite coquetterie d'honneur. Alors, il est fatigué. Il est de mauvaise humeur. Et il projette tout de suite ça sur son épouse. Pas sa fiancée, mais son épouse. La fiancée est exempte de ses douches. Et l'ami et l'épouse, au contraire, c'est elle qui les reçoit le mieux. Toujours. Alors, si elle n'aime pas beaucoup, elle dira oh, vraiment, comment il me traite. Ah, c'est bien lui, ça. Et alors, à ce moment-là, il y a un petit voile qui commence à pousser entre l'épouse et l'époux. Parce que elle l'aime parce que l'autre l'aime. Alors que si elle l'aimait pour lui-même, elle découvrirait tout de suite. Ah oui, il est comme ça, c'est pas étonnant. Il a dû souffrir beaucoup ce matin. Alors qu'est-ce qu'il y a, mon ami? Dis-moi un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des difficultés ce matin. Ils n'ont pas été chics pour toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle devine tout de suite. Elle détourne le sujet, vous voyez, pour essayer que l'autre dise ce qui ne va pas. Et alors, à ce moment-là, ça augmente l'amour. Vous savez, il y a une stratégie dans l'amour. Il ne faut pas oublier que l'amour d'amitié, s'il ne grandit pas tout le temps, il risque de glisser et de perdre. C'est vrai de toute amitié. Si vous aimez l'autre parce qu'il vous aime, c'est fatal, on glisse à deux. Parce qu'on voit que l'autre a l'air d'aimer moins. L'autre ne dit plus ce qu'on attendait de lui. On est déçu. Et c'est terrible, les déceptions dans l'amour. Ça arrête, ça met un voile. Alors, on répond moins bien. L'autre est de mauvaise humeur, on est de mauvaise humeur aussi, parce que c'est contagieux. C'est un virus contagieux, on est de mauvaise humeur. Tout de suite. Et alors, on voit que, à la place d'avoir été victorieux de l'obstacle, on est tous les deux victimes de l'obstacle. Et on dégringole. Là, ça me frappe énormément. C'est que on croit que l'amour est donné gratuitement. Et on ne nous a pas éduqués dans l'ordre de l'amour. On avait porté l'éducation sur les vertus. Alors, évidemment, si quelqu'un était très très vertueux, il ne serait jamais de mauvaise humeur. C'est dans les coups durs qu'on voit si quelqu'un a la vertu ou pas. Quand ça va bien, il n'y a que des fleurs. On est tous vertueux dans un parquet de fleurs. Tout le temps, c'est merveilleux. Ça sent bon, c'est merveilleux, c'est beau, c'est extraordinaire. Mais quand la lutte existe, c'est difficile. C'est pour vous faire toucher le « je suis » dans la capacité d'aimer. C'est ça que je voudrais que vous compreniez. Parce que là, on voit que c'est important de comprendre que la dimension de capacité d'aimer me fait toucher l'être. Donc l'autre, tel qu'il est, et non pas tel qu'il m'aime. Tel qu'il m'aime, c'est le vécu. archéologique. Tandis qu'au contraire, le découvrir tel qu'il est, alors c'est tout à fait différent. C'est le point de vue objectif. Si je reste uniquement dans le vécu psychologique, je dégringolerai. Mais la psychologie ne sait pas vraiment ce qu'est l'amour. Là, je vous donne un petit exemple aussi, parce que c'est très vrai que c'est pas commode à saisir, mais je crois que c'est important pour nous. La psychologie est très importante quand vous avez affaire à certains qui sont malades. Et quand vous vivez pleinement, vous n'avez pas besoin. Je me souviens, c'était encore en Suisse et dans le Valais. Je prêchais un dimanche. Et il y avait, non seulement il y avait la communauté religieuse, c'était à monter. Non seulement il y avait la communauté religieuse, il y avait d'autres personnes qui étaient là. Et dans la prédication, j'ai dit que l'amour est au-delà de la psychologie. Et que la psychologie ne peut pas dire ce que c'est que l'amour. Et dans ce domaine-là, c'est très important de la dépasser. Autrement, on dégringole. Alors, sitôt après la conférence, on me dit « Quelqu'un est furieux de ce que vous avez dit. Il est l'assistant de Piaget. Piaget, psychologue à Genève, bien connu. Assistant de Piaget, furieux. C'était un Valaisan. Je dis donc qu'il doit être catholique. On va voir, essayer quand même de faire comprendre certaines choses. Et puis on me dit en plus, il est fiancé. Alors je dis tout de suite, alors on est sauvé. Et sa fiancée est là. Oui, elle est là. Alors demandez-lui de venir me voir avec sa fiancée. Alors ils arrivent à deux. Je lui dis, pareil, vous êtes furieux de ce que j'ai dit. Oui, quand même, vous n'avez pas le droit de dire ça. Je suis assistant de Piaget. Je sais bien ce que c'est que la psychologie. Alors je me retourne vers sa fiancée. Et je lui demande, est-ce que la psychologie de Piaget vous a aidé beaucoup pour aimer votre fiancée? Alors si vous aviez vu la réaction, c'était admirable. Mais pas du tout, mon père. Ah, mais c'est ce que j'ai dit. Bien là, je me suis retourné de nouveau vers la fiancée. Je dis, heureusement pour vous. Parce que l'amour est quelque chose de fondamental dans notre être, dans notre esprit. Un amour spirituel, le choix de l'ami. C'est directement dans la ligne de la finalité. C'est l'amour qui me joint à un bien personnel qui est ma fin. Et la psychologie regarde le conditionnement. Donc elle ne sait pas ce que c'est que l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui est au-delà. Alors on va voir le psychologue quand on n'aime plus. Ouais, ça, c'est sûr. C'est ce psychanalyste au point de Neuchâtel, vous savez, qui se disait plus freudien que Freud. C'est quand même pas mal d'être plus freudien que Freud. Et alors il disait, j'ai reçu 10 000 lettres de fiancés. J'ai jamais rencontré l'amour. Là, j'ai envie de lui dire, je sais pas, j'ai envie de lui dire, mais je crois que les 10 000 lettres de fiancés qui vous ont écrit, ce sont des fiancés qui étaient en mal d'amour. Et ceux qui aimaient vraiment ne sont pas écrits. conscience de l'amour. Si vous réduisez l'amour à la conscience de l'amour, vous réduisez l'amour au vécu d'amour. Et l'amour va plus loin, puisqu'il est extatique. Tandis que vous avez le droit de ramener la connaissance à la conscience de la connaissance. Mais vous n'avez pas le droit de ramener l'amour à la conscience de l'amour. Ça, c'est très très important. C'est vital, ça. Pour nous. Et c'est pas commun, mais c'est difficile d'aimer. Vous savez. C'est la chose la plus difficile. C'est la chose la plus grande et la plus belle. Mais c'est plus difficile. C'est plus difficile d'aimer que de connaître. Et connaître, c'est pas toujours commode. Hein. Entrer en métaphysique, en philosophie première, c'est pas commode. Et bien, c'est encore plus difficile d'aimer. D'aimer vraiment. Alors, c'est parce que pour aimer vraiment, on est le seul auto-éducateur de notre amour. Personne ne peut être éducateur de mon amour. Je suis seul auto-éducateur. Et je dois comprendre que ce que je dois éduquer le plus, c'est ma capacité d'aimer. Et plus je suis pris par le point de vue de la connaissance, plus je dois développer ma capacité d'aimer. Alors vous comprenez que le « je suis », c'est pour ça que j'insiste un peu, parce que je trouve ça tellement important, le « je suis » en profondeur, mon « je suis » personnel, c'est vraiment mon amour actuel. Vis-à-vis d'un ami. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est